Chapitre 27. Après le franchissement de la rivière gelée, le Cher probablement, les panneaux routiers encore visibles n'indiquaient plus N20, mais N20-E09. La ville qu'il venait de traverser était sans doute celle de Vierzon, précédée d'une forêt pétrifiée, ensevelie sous une couche de cendres et de neige qui atteignait par endroits une hauteur de 30 mètres. Ils n'avaient décelé aucune trace de vie depuis leur départ des environs d'Orléans. Frère Thomas les avait accompagnés jusqu'à l'entrée de la départementale 921, qui, selon le moine, se jetait une vingtaine de kilomètres plus loin dans la Nationale 20. Les 6 handicapés mentaux avaient été installés dans un coin du gymnase. Les partisans du non avaient contesté le résultat du vote et réclamé un nouveau scrutin. Frère Thomas avait déclaré que puisqu'elle se réclamait de la démocratie, la population des survivants devait respecter la volonté de la majorité. Franks avait surpris les regards haineux que des hommes et des femmes avaient adressés aux moines et en avait conclu que sa vie était menacée.
« Pensez-vous ?»
s'était exclamé frère Thomas avec un sourire désarmant de candeur.
« Il faut seulement leur laisser le temps de s'habituer. Je suis certain que les nouveaux arrivants s'intégreront rapidement au groupe et qu'ils démontreront toute leur utilité. »
Il avait pris congé de Franks et Souria à un croisement qui portait le nom de Gay Gaillard. Il y avait joué, enfant, pendant ses vacances dans une ferme voisine.
« Vous n'avez qu'à suivre la départementale jusqu'à la nationale.
À condition qu'on puisse voir la route jusqu'au bout. »
Le moine écarta les bras. De ses yeux s'écoulait, comme une eau claire, toute la bienveillance du monde.
« Ayez donc confiance dans la Providence, mon ami. Il me semble que ça ne vous a pas trop mal réussi jusqu'à présent. »
Franks l'avait remercié d'un hochement de tête. Souria était revenu sur ses pas et s'était jeté dans les bras du vieil homme. Il l'avait soulevé et pressé un long moment sur sa poitrine, les cheveux noirs de la fillette jetés dans les poils blancs et emmêlés de sa barbe. Il avait crié en la reposant.
« Veillez bien sur elle. C'est une sacrée petite bonne femme, vous savez. »
Comment ne pas s'en rendre compte? Franks avait eu maintes occasions de constater les exceptionnelles facultés de Souria. Leur association relevait de la symbiose. Il était ses jambes, son bouclier protecteur. Elle était sa vigie, comme il l'avait dit à frère Thomas dans le gymnase. Sa longue vue, son fil dans le labyrinthe. Un lien puissant s'était tendu entre eux, affectif, spirituel, plus fort et plus solide que les chaînes du sang. Ils n'avaient pas besoin de paroles, ni de gestes. Il leur suffisait pour se sentir unis, d'être l'un à côté de l'autre, ou l'une perchée sur les épaules de l'autre. Lorsqu'il observait la fillette dans son sommeil, si détendue qu'elle en paraissait surnaturelle, Franks débordait d'un amour profond, inexplicable, comme un vase se remplissant à une invisible source. Il n'avait rien éprouvé de tel avec Alice et les enfants. Devant eux, il n'avait jamais pu se présenter le cœur nu. Entre eux, il y avait toujours eu cette barrière de défiance, ces enjeux inconscients qui faussaient les relations, qui poussaient chacun à prendre et à garder, qui les séparaient les uns des autres. Il avait attendu d'eux qu'ils comblent ces failles. Il les avait aimés pour ce qu'ils représentaient, et non pour ce qu'ils étaient. Avec Souria, il avait appris à donner sans rien espérer et avait reçu bien davantage qu'il n'aurait pu l'espérer. Une sacrée petite bonne femme. Frère Thomas avait raison. Les chutes de cendres avaient été plus abondantes dans le centre de la France qu'à Paris, sans doute parce qu'on se rapprochait du massif central et de la chaîne des volcans. Les tremblements de terre avaient chamboulé les paysages, érigé des reliefs abrupts et tourmentés entre des failles profondes, changé par endroits les creux en gouffres. Des vents violents surgissaient des replis obscurs et déferlaient sur les étendues planes en poussant des mugissements déchirants, brisant comme du verre les branches pétrifiées, dévêtant de leurs dentelles de cendres les surfaces gelées. La lumière du jour manquait de plus en plus à Franks, probablement davantage que la chaleur. Il lui tardait de sortir de ce monde en noir et gris, de revoir les couleurs de la terre, le vert tendre de l'herbe et des frondaisons, l'or, l'incarnat et le bronze des feuilles en automne, les notes allègres des fleurs sauvages, les rosaces mauves, roses et indigo des aubes froides, le bleu limpide du ciel en été, les flamboiements des crépuscules. Il rencontrait des difficultés grandissantes à se souvenir des jours et des nuits d'avant, à reconstituer de mémoire les paysages riants des forêts et des plaines, les vagues dorées des champs de blé, les pentes émeraudes des collines, les parois ocre des montagnes, les rochers habillés de mousse, les sous-bois criblés de colonnes obliques et scintillantes, le fourmillement miraculeux des étoiles. Il redoutait de mourir avant d'avoir vu le jour soulever de nouveau la nuit. Il ne lui revenait pas de décider. Il devait seulement fendre pas à pas l'air plus coupant qu'un rasoir, porter, en plus du sac à dos, Souria dont les petites jambes fléchissaient, trouver un abri pour manger, boire, faire leurs besoins, éventuellement allumer un feu s'ils avaient la bonne fortune de découvrir un tas de bois préservé, dormir en se serrant l'un contre l'autre pour se tenir chaud, graisser le fusil et le pistolet, repartir quelques heures plus tard, en s'efforçant de repousser le découragement, qui, comme un insatiable oiseau de proie, les harcelait sans répit. Franks n'avait pas eu à se servir de ses armes. On ne croisait que des cadavres sur ces étendues gelées. Des hommes, des femmes, des enfants, des animaux, morts de faim et de froid. Les survivants resteraient terrés dans leur bunker jusqu'au retour du soleil. Les cendres se mirent à pleuvoir alors qu'ils parcouraient une plaine morcelée par les failles d'où montaient par endroits des fumées piquantes. « Il faut remettre les lunettes et les masques », dit Franks. Il posa le sac au sol, s'accroupit près de Souria, l'équipa de ses lunettes de natation, lui couvrit le bas du visage d'un pan de tissu, puis, après s'être protégé lui-même les yeux, le nez et la bouche, il prit la fillette par la main et repartit. La visibilité devint rapidement nulle, et ils progressèrent avec une extrême lenteur pour éviter de se précipiter dans les failles. L'odeur caractéristique de soufre fit craindre l'asphyxie à Franks. Il ne servait à rien de rebrousser chemin. Les cendres tombaient sans doute sur un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, et il serait confronté au même problème dans n'importe quelle direction. Il continua de suivre la Nationale 20, dont certains tronçons restaient identifiables grâce aux panneaux aériens, aux échangeurs, aux barrières métalliques soulevées par les échines de terre. Ils arrivèrent dans une station-service en ruine. Une grosse berline était restée bloquée entre les pompes, sous le toit en partie affaissé qui les protégeait. Sa carrosserie rouge vif était encore visible sous les dentelles de givre. Franks et Souria, rampant sous un volet métallique légèrement relevé, se glissèrent dans la boutique. Le rayon de la torche éclaira des rayonnages renversés, des gobelets, des revues, des pièces de monnaie, des billets, des reçus de cartes bancaires éparpillés sur le sol, et deux corps en parfait état de conservation. L'un vêtu d'une combinaison brune, l'autre, une femme, d'une robe retroussée qui recouvrait en partie son visage et sa chevelure blonde. Personne n'avait remis les pieds dans cet endroit depuis les premiers tremblements de terre. L'homme et la femme ne portaient aucune trace de commotion sur le corps ou le visage, probablement victimes d'émanations d'hydrogène sulfuré. Franks ramassa des barres chocolatées, des cacahuètes, des gâteaux secs, des canettes de soda et les fourra dans les poches latérales du sac à dos. Un grondement retentit. Le regard de Souria se voila d'inquiétude. Le bruit, qui évoquait un roulement de tonnerre, montait du ventre de la terre. Il avait probablement un lien avec la pluie de cendres et l'odeur écœurante du soufre. Franks eut la vision fugitive d'une arche rocheuse jetée comme un viaduc au-dessus d'un fleuve rutilant. Souria lui retourna un large sourire lorsqu'il proposa de se remettre en chemin. Le fleuve effectuait un large méandre entre les falaises qui bordaient ses deux rives. Ses lueurs flamboyantes projetaient un gigantesque halo qui repoussait l'obscurité à plusieurs centaines de mètres. Un écoulement de lave, majestueux, tumultueux, étincelant, dont Franks, du haut de la falaise, ne discernait pas le début ni la fin. Le cœur dénudé de la terre saignait en abondance. Les cendres continuaient de voler, pourchassées par un vent volage. L'odeur de soufre, toujours aussi forte, restait supportable. « Il faut qu'on trouve l'arche que tu m'as montrée tout à l'heure, » dit Franks. « Je crois que c'est par là qu'on doit passer. » À peine eut-il prononcé ces paroles que la fillette s'élança et dévala à toutes jambes la pente pourtant vertigineuse de la falaise, bondissant de rocher en rocher. Ils contournèrent les cratères et les failles et se rapprochèrent de l'écoulement de lave. L'air devint si chaud qu'ils se contentèrent de longer le fleuve en conservant une distance de 200 ou 300 mètres. Ils n'avaient pas besoin de la lumière des lampes torches. Ils voyaient comme en plein jour. La glace fondue dévoilait un sol noir jonché de flaques et de fumerolles. Franks aperçut l'arche qui reliait les falaises opposées une cinquantaine de mètres au-dessus de la lave. Il avisa également une cabane de bois et eut la vision d'une silhouette quelques secondes avant que cette dernière n'apparaisse dans l'entrebâillement de la porte. Un homme de 60 ou 70 ans. À la façon dont il sondait le sol avec son bâton noueux, à sa démarche hésitante, Franks devina qu'il était aveugle ou malvoyant.
« Qui va là ?»
La voix forte du vieil homme dominait le grondement sourd et continu du fleuve de lave. Ses vêtements, canadiennes, bonnets, gants, bottes, semblaient propres et en excellent état.
« Des voyageurs, Franks et sa fille Souria !»
Le vieil homme s'arrêta à 2 mètres de Franks et resta un moment immobile, le nez légèrement relevé, comme s'il humait l'odeur de ses vis-à-vis.
D'où venez-vous ?
De Paris.
Où allez-vous ?
Dans le Périgord. Nous essayons d'entrer chez nous.
Le vieil homme essuya d'un revers de main ses joues glabres et sillonnées de rides. La lumière de la lave transformait son visage en un masque de bronze martelé par un sculpteur dément.
Il faut être fou pour affronter des conditions pareilles.
Nous sommes bien équipés, dit Franks. Nous avons réussi à parcourir la moitié du chemin.
Et vous, que faites-vous ici ? J'habitais cette cabane avant le cataclysme. J'y suis resté.
Comment vous procurez-vous votre nourriture, votre eau, vos vêtements ?
Le vieil homme enfonça la pointe de son bâton dans la terre ramollie par la chaleur de la lave.
Ce sont les gens du village qui subviennent à mes besoins. Tous les deux jours, quelqu'un m'apporte de quoi boire et manger. Comme avant.
Il y a donc des survivants dans le coin ?
Ils avaient été prévenus. Ils ont tous survécu.
Prévenus ? Par qui ?
Les yeux morts du vieil homme se posèrent sur Franks, qui eut l'impression soudaine et déstabilisante d'être traqué au plus profond de lui-même.
« Par moi. La vie ne m'a pas donné Dieu. Elle m'a offert une autre façon de voir. »
« Vous voulez dire que vous aviez prévu le cataclysme ?»
Souria contemplait en contrebas les rougeoiements de la lave. Le vent soufflait par instants des haleines chaudes et nauséabondes.
« Il venait sans cesse me consulter, » répondit le vieil homme. « La première fois que je leur ai parlé de la fin du monde, ils ne m'ont pas cru. Mais comme je ne les ai jamais déçus, ils ont fini par m'écouter et s'organiser pour passer les temps difficiles.
Pourquoi n'êtes-vous pas avec eux ? Ils n'ont pas voulu de vous ?»
Le vieil homme éclata d'un rire étonnamment clair, enfantin.
« Ils ont insisté pour que je m'installe avec eux dans leur grotte, mais j'ai pas voulu bouger d'ici. »«
Vous n'aviez pas peur de...
mourir ?»
Le vieil homme observa un temps de silence dans lequel Franks perçut une profonde douleur.
« La mort, je la réclame chaque instant, mais elle persiste à me fuir. Les images que je ne vois pas à l'extérieur, elles me viennent à l'intérieur. Elles peuvent jaillir à n'importe quel moment, même si je n'en ai pas envie. Elles ne me fichent pas la paix. Elles me font presque toujours souffrir. Et je sais maintenant qu'elles ne s'arrêteront que lorsque je serai mort. Croyez-moi, c'est une dure épreuve que le ciel m'a envoyée. Une vraie malédiction. »
Franks reposa le sac à dos et le fusil sur le sol. Il se demanda si la chaleur de la lave n'allait pas décongeler les aliments et les rendre impropres à la consommation. Il observa la cabane par-dessus l'épaule du vieil homme, une construction en bois assez vaste et bien entretenue.
Ils sont à combien d'ici les survivants ?
Environ 4 kilomètres. Pas la peine que je vous dise où, je sais que vous ne les rejoindrez pas.
Que savez-vous d'autre ?
Le vieil homme réfléchit un instant.
Simplement que vous allez bientôt vous essayer à la traversée de l'arche.
Pas besoin d'être devin pour prédire ce genre de choses. Il n'y a pas d'autre passage.
Les chemins qui paraissent les plus courts sont parfois les plus longs. Quoi que je vous dise, de toute façon, vous n'en ferez qu'à votre tête. Tant mieux dans le fond. Il est préférable que votre page reste à chaque instant vierge. L'innocence est la plus appréciable des vertus.
Franks leva les yeux sur l'arche. Par endroits très étroites, elle n'autoriserait pas le moindre faux pas.
Vous avez pourtant prévenu les villageois.
La douleur est par moments si forte que je n'ai pas d'autre choix que de l'évacuer. Et puis, ils ont pris eux-mêmes leur décision.
Le vieil homme, qui s'appelait Thierry, les invita à partager son repas. Un lit, un fauteuil, une cuisinière centrale, 2 bassines d'eau, une table, 3 tabourets et un banc meublaient la cabane. La qualité de la construction surprit Franks. Cloisons doublées, lisses et étanches, lattes du parquet parfaitement jointes, poutres et chevrons comme neufs.
« Ils me font le ménage et la lessive tous les 7 jours, »
dit Thierry. Il se déplaçait d'un endroit à l'autre sans marquer la moindre hésitation, aussi rapidement qu'un valide. Il vida le contenu de 2 bocaux dans une casserole posée sur la cuisinière et prépara une soupe épaisse dans laquelle il ajouta des haricots blancs, des morceaux de pain et de viande séchée.
« Vous avez vu passer d'autres voyageurs ?»
demanda Franks.
« Quelques-uns. Certains m'ont même frappé et dépouillé. Ils ont voulu me traîner jusqu'au bord du fleuve de lave pour m'y balancer, mais faut croire qu'on ne se débarrasse pas de moi comme ça. Ils n'ont pas supporté la chaleur quand ils se sont approchés du bord. Ils ont rebroussé chemin et m'ont abandonné. »
« La lave coule depuis quand ?»«
Depuis le début du cataclysme, sans doute. J'ai bien cru que le tremblement de terre allait nous emporter, moi et ma cabane. Mais on a tenu debout tous les deux. Ça a pourtant craqué fort. »
« Il y avait quoi avant ?»«
Une simple faille. L'ancien lit d'une rivière. On l'appelait le Petit Canyon. Les villageois ont attendu 10 jours avant de m'envoyer 2 hommes. Ils s'inquiétaient pour moi. Ils m'ont dit que la lave coulait comme de l'eau. Le magma se cache pourtant bien plus profond que les sources.
Il ne s'agit pas de simples tremblements de terre, mais d'un mouvement global de l'écorce terrestre, d'un bouleversement géologique, dit Franks après un instant de silence. Quand la nuit se lèvera, on s'apercevra que les terres et les mers se sont déplacées, que les anciennes cartes ne sont plus valables. La terre est un grand corps. Il arrive qu'elle se blesse, qu'elle saigne, puis elle cicatrise. Certaines sections du tablier de l'arche, relativement plat, n'excédaient pas un mètre de largeur. La roche rouille et desséchée s'effritait sous les semelles de bottes de Franks. Il évoluait une cinquantaine de mètres au-dessus du fleuve de lave, dont la chaleur vive et les fumées piquantes le contraignaient à respirer lentement. Il marchait légèrement penché vers l'avant, pour compenser le poids du sac à dos et de Souria perchés sur ses épaules. Il évitait de regarder sous lui, se concentrant sur le passage, craignant à chaque pas un affaissement de la couche rocheuse, par endroits très fines. Enfant, il avait souffert du vertige et esquivé autant que possible les hauteurs. Il jugulait tant bien que mal les vagues de panique qui venaient sans cesse le saper. L'éclat de la lave enflammait les ténèbres. Fatigué, probablement sous-oxygéné, il refusa de prendre un temps de repos au milieu du passage. Thierry les avait accompagnés jusqu'au bord de l'arche et leur avait souhaité bonne chance. Le vieil homme n'avait pas attendu qu'il s'aventure sur le surplomb pour rebrousser chemin, pressé de retourner à sa solitude. Le tablier s'étranglait plus loin sur une distance d'au moins 20 mètres. Franks s'arrêta, persuadé qu'il ne parviendrait jamais à le franchir. Puis les talons de Souria lui frappèrent sèchement le creux des épaules, et comme un cheval éperonné par son cavalier, il se remit en marche.